Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, coup de projecteur dans Escale sur la situation humanitaire en République démocratique du Congo, un pays qui depuis plus de deux décennies est secoué par de nombreux soubresauts. Aux foules des démunis se sont ajoutés depuis un an et demi 1,7 million de déplacés. Conséquence, l'insécurité alimentaire gagne du terrain au Kasaï, au Tanganyika et dans les Ituri, affectant particulièrement des populations rurales et agricoles. D'où le regain de mobilisation du Programme alimentaire mondial de l'ONU et pour nous en parler, le directeur du PAM à Kinshasa, Claude Jibidar. Claude Jibidar, bonjour.
Bonjour.
Claude Jibidar, vous êtes le directeur du bureau du Programme alimentaire mondial en RDC, donc le PAM qui, avec d'autres agences des Nations Unies, essaie de répondre aux urgences humanitaires dans ce vaste pays. La RDC, aujourd'hui, c'est un pays qui, en termes de chiffres et de population affectée, est très important. On vous est adressé aux journalistes il y a peu de temps et vous leur parliez du fait qu'il y a une accélération de la violence dans le pays. Est-ce que c'est véritablement ça qui, aujourd'hui, pourtant dans un pays qui a connu de nombreuses difficultés, est-ce que c'est vraiment cette accélération ces derniers mois, depuis un an, des violences qui ont créé cette crise, je pense donc au Kasaï, au Tanganyika et en Ituri?
C'est, je crois, quelque chose qui est maintenant très clair. Le phénomène de violence redoublé au Kasaï, au Tanganyika, continue dans les Kivu et qui vient de recommencer en Ituri, sont les causes directes de déplacement de populations. Et comme en RDC, vous savez, les populations rurales sont des populations paysannes. Ce sont des gens qui vivent de leurs terres. Quand ces gens sont obligés de quitter leur village, de quitter leurs terres, ils perdent tout. Ils n'ont plus rien, ni pour manger, ni pour s'abriter, ni pour se soigner. Et c'est ça qui mène à la situation humanitaire que nous connaissons aujourd'hui.
Alors, sans multiplier les chiffres, il y a quand même des données intangibles. Combien de personnes aujourd'hui sont affectées par les conflits? Combien de personnes notamment sont déplacées? Et combien sont aussi réfugiées dans les pays voisins?
Alors, on a 4,5 millions de personnes déplacées internes en RDC. C'est le plus gros chiffre en Afrique. Il n'y a pas un pays qui a plus de personnes déplacées. La RDC a 650 000 de ses ressortissants qui sont réfugiés à l'extérieur de la RDC. Mais tenez-vous bien, la RDC est aussi haute, à plus de 500 000 réfugiés centrafricains, sud-soudanais, burundais et autres qui sont aussi réfugiés à l'intérieur. Donc c'est un énorme phénomène de déplacement au-delà des frontières, mais surtout de déplacement interne à l'intérieur du pays.
Alors le pays a été affecté par de nombreux conflits depuis une vingtaine d'années, avec des successions de régimes, avec des groupes rebelles. On parle aujourd'hui de plus d'une centaine de groupes rebelles. Comment ces groupes rebelles peuvent-ils aujourd'hui prospérer? Est-ce que la situation, le processus électoral aussi, ont aggravé ces situations-là?
L'insécurité engendre l'insécurité. Et ça, c'est un phénomène que nous avons connu dans l'est du Kivu, dans l'est de la RDC, dans les Kivu en particulier, depuis, comme vous dites, deux décennies. Le nombre de ces groupes armés a augmenté. Ça veut dire que les groupes se forment, ils n'ont pas nécessairement un but politique. Bien souvent, c'est des groupes qui se forment quelquefois d'autodéfense, dans une situation où l'insécurité prévaut. Ce sont des groupes qui se forment pour pouvoir peut-être avoir accès à des mines artisanales, avoir accès à des ressources. Ce sont des milices qui sont quelquefois formées pour pouvoir pousser certaines populations à se déplacer. Il y a toute une problématique de l'accès à la terre. C'est tout ça qui fait la complexité de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Vous savez, vous parliez d'il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, il y avait, je dirais, deux groupes principaux dont on parlait. C'était les Interahamwe, qui étaient donc les génocidaires qui venaient du Rwanda. Et l'autre groupe dont on parlait principalement, c'était les Maïmaï, qui étaient des groupes d'autodéfense villageois. Et aujourd'hui, on est à plus de 100 groupes. Voilà le drame de la RDC, parce que ça crée l'insécurité, ça fait déplacer les gens, et chaque fois que les gens sont déplacés, ça crée des drames.
Mais à qui le crime profite? Est-ce que le gouvernement est responsable de ça? Est-ce qu'il y a cet effet d'aubaine, justement, par rapport aux ressources? On parle parfois de la RDC comme d'un scandale géologique, il y a pratiquement tout dans ce pays. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la richesse qui crée la pauvreté et la misère?
Je ne sais pas, la richesse ne devrait pas créer la pauvreté et la misère. C'est peut-être la manière dont tout cela est géré, la manière dont on essaie d'accéder à cela. Oui, c'est vrai que c'est un scandale géologique, mais c'est aussi un scandale alimentaire. Ce pays ne devrait pas avoir besoin qu'on donne de la nourriture à ces gens. Tout pousse dans ce pays. Et je le dis toujours, vous allez en RDC, vous prenez vos tomates, vous les coupez, vous les lavez, vous versez l'eau. Revenez un mois après, vous allez avoir des tomates qui auront poussé. C'est ça la RDC. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là? C'est parce que les populations sont systématiquement déplacées. Elles fuient devant ces bandes armées. Et il y a un climat, une atmosphère, une culture de violence qui s'est établie, qui fait que, vous savez, un enfant qui, depuis 20 ans, n'a connu que la violence, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse quand il aura atteint ses 18 ans, quand il aura la possibilité d'avoir une arme? Donc c'est ce cercle de la violence qu'il faut vraiment arrêter. Et on le sait, c'est ça qui fait le drame de la RDC aujourd'hui.
Alors pourtant, la communauté internationale s'est penchée sur la RDC. Depuis des années, il y a des missions de maintien de la paix des Nations Unies. En quoi aujourd'hui, on ne peut pas répondre donc à ces enjeux humanitaires? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème pour déjà aider matériellement les populations qui sont affectées?
Il y a déjà un gros problème d'aide matérielle aux populations. Ce que vous entendez quand vous parlez avec les gens et l'image que tout le monde se fait, surtout à l'extérieur de la RDC, c'est ce pays où depuis deux décennies, il y a une situation humanitaire qui perdure, qui malgré tout ce qu'on met comme ressources, on n'arrive pas à le résoudre. Mais bon, je veux quand même rappeler aux gens que la RDC fait 2,34 millions de kilomètres carrés. C'est 5 fois la taille de la France. Donc, il faut quand même se rendre compte que, oui, c'est vrai qu'on a une mission des Nations Unies qui est la plus grande au monde. Mais à l'échelle de ce pays, c'est probablement la plus petite mission des Nations Unies au monde. Et il faut se rendre compte de la difficulté qu'il y a à accéder à ces zones. Ce pays n'a pas d'infrastructure routière. Donc, si vous regardez tout ça, vous vous rendez compte que ce n'est pas un problème qui est facile à résoudre. Surtout quand vous vous rendez compte que les besoins humanitaires ou les financements humanitaires sont adressés à moins de la moitié de ce qu'il faudrait. Voilà, c'est la combinaison de tout ça qui rend ce problème difficile à résoudre.
Est-ce que justement la focalisation sur les élections, sur le processus de la Saint-Sylvestre, est-ce que ce genre de mobilisation plus politique qu'autre a aussi porté préjudice donc à la cause humanitaire?
Vous savez, mon analyse est beaucoup moins portée sur tout cela plutôt que sur les causes directes de l'insécurité alimentaire. Je ne saurais pas vous dire. Je sais que bon, il y a beaucoup de gens qui sont bien mieux placés que moi pour pouvoir répondre à cela avec des analyses beaucoup plus pointues. Moi, la seule chose que je dirais, c'est que oui, il y a eu effectivement une augmentation de la violence depuis un an et demi. Et quelque part, je me dis oui, c'est vrai qu'à travers les processus électoraux, il y a des chances que la violence augmente. On le voit dans un certain nombre d'autres pays. Mais bon, ça n'explique et ça ne devrait pas expliquer pourquoi aujourd'hui, on a 13 millions de personnes en RDC qui sont en besoin humanitaire. Pourquoi on a 7,7 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire sévère? Ça ne devrait pas pouvoir expliquer cela. Donc il y a peut-être d'autres explications.
Pourquoi aujourd'hui on arrive à mobiliser que la moitié des fonds? Est-ce que les pays aujourd'hui se lassent? Est-ce qu'il y a cette fameuse lassitude des donateurs?
Je crois qu'il y a une lassitude des donateurs. Je crois qu'il y a aussi un peu une incompréhension de la situation en RDC. D'abord, je veux le dire, le répéter, le crier s'il le faut. Je crois qu'au cours des deux dernières décennies, beaucoup a été fait en RDC. En termes d'accès aux soins de santé, en termes de couverture vaccinale, en termes d'accès à l'école, en termes même d'insécurité alimentaire dans certains endroits, beaucoup a été fait. Mais ce que je veux aussi rappeler, c'est que nous avons tous la mémoire de la RDC d'après le départ des réfugiés rwandais. Qu'est-ce qu'il y avait comme assistance humanitaire et réelle assistance de développement dans ce pays avant l'arrivée des réfugiés rwandais? Qui s'en rappelle? Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc il faut quand même se rendre compte que ce qui est fait en RDC, c'est ce qui a été mis en place depuis le départ des Rwandais. Il y avait deux groupes armés. Aujourd'hui, il y a plus de 100 groupes armés. Le scandale pour moi, c'est qu'on soit dans une situation où de deux, on soit passé à 100 groupes armés. Et je crois que quelque part, il y a aujourd'hui des opportunités de changer les choses. C'est ce que nous faisons au Kasaï. Au Kasaï, par exemple, oui, nous avons 1,5 million de personnes qui ont été déplacées, mais nous travaillons en parfaite symbiose avec la FAO. Nous donnons de la nourriture, la FAO donne des semences aux gens qui rentrent chez elles, et ces personnes peuvent se remettre immédiatement à cultiver. Ça veut dire qu'en termes de besoins alimentaires, on n'a pas besoin de les assister pendant 6 mois, pendant 9 mois, pendant 1 an. On leur donne des semences et boum, immédiatement, ces personnes peuvent cultiver. Quand il y a quelques mois, les personnes, les femmes étaient déplacées dans les villes. La FAO leur a donné des semences maraîchères. Ces femmes ont planté, elles ont planté des tas de légumes locaux qui poussent en 3 semaines. En 1 mois, vous avez des légumes qui poussent. Et on voyait ces femmes avec des bassines et ces légumes sur la tête qui allaient les vendre au marché. Elles s'en nourrissaient et elles mangeaient une partie. Et c'est comme ça que ces gens ont survécu. Et dès qu'elles ont eu la possibilité de rentrer chez elles, de recommencer les champs, de replanter le manioc, de replanter le maïs, eh bien, ces gens ont recommencé à le faire. Et ça, c'est tout à fait possible. Mais ça veut dire qu'il faut que tout soit fait pour qu'il y ait une relative paix, une relative stabilité et que les ressources soient là à temps. Comme je dis, apporter ou donner des ressources 1 ou 2 mois après la saison agricole, il en faudra 5 fois plus que si je les avais reçues 3 mois avant la saison agricole. Voilà, c'est comme ça qu'il faut qu'on regarde les choses, qu'on pense les choses.
En quoi aujourd'hui vous êtes obligé de faire des choix? Vous parliez de plusieurs récoltes, donc combien par exemple de récoltes on peut faire aujourd'hui de manioc en une année?
Vous savez, en RDC, presque partout, on peut faire 2 ou 3 récoltes par an. Donc ça veut dire qu'il faut juste être là au bon moment pour aider les gens à planter. Ce pays peut nourrir 2 milliards de personnes. Donc la production agricole n'est pas le problème. C'est la disponibilité des semences, c'est bien sûr la paix, la stabilité, que les gens puissent rester, les gens puissent cultiver. C'est ce qu'il faut. Et puis le reste, ça va se faire tout seul.
Et le retour des personnes déplacées, on parlait du Kasaï, les personnes qui sont allées se réfugier en Angola et ailleurs, vous parlez du Burundi, pour donc l'est du pays. Est-ce que là également, il faudra bien réintégrer ces personnes, il faudra bien qu'elles reviennent chez elles?
Il faudra que ces personnes soient réintégrées, il faudra qu'elles rentrent chez elles. Beaucoup de ces gens ne sont pas encore rentrés, sont encore ont pris refuge à l'étranger, ne sont pas encore venus. Mais à l'intérieur, les personnes qui sont déplacées internes, celles qui vivent dans la brousse, celles qui vivent aux dépens de communautés hautes qui elles-mêmes s'appauvrissent, ces gens-là rentrent chez eux. Et c'est pour ça que nous demandons à être présents pour les aider quand ils rentrent. C'est pour ça que c'est impératif. C'est pour ça que cette conférence à venir, pour nous, elle est vraiment vitale. Parce que cette conférence doit pouvoir nous permettre de mettre l'accent sur le besoin humanitaire immédiat. C'est pas demain, c'est immédiat. Parce que dans les semaines, dans les mois à venir, on a une des grandes saisons agricoles, une des plus importantes saisons agricoles dans le Kasaï, dans le Tanganyika. Et il faut qu'on puisse aider les gens à ce moment-là. Et puis cette conférence, ça va être aussi pour nous, j'espère, l'occasion de pouvoir repenser la RDC différemment. Ça fait la 3e fois que je suis en poste dans ce pays. La première fois que j'y étais, c'était fin des années 90. Et quand je suis revenu il y a 1 an et demi, j'ai vu des enfants déplacés qui avaient 15 ans, des femmes déplacées qui avaient 40 ans. Quand je regardais tous ces gens, je me disais, mais ces gens, ça se trouve, je leur ai déjà distribué de la nourriture il y a 19 ans. Et on a sauvé la vie de ces gens. J'ai dit, oui, c'est bien, on a sauvé la vie, mais après 19 ans, on n'a pas changé leur vie. Et c'est ça le drame. On a sauvé leur vie, mais on n'a pas encore réussi à changer leur vie. Et c'est ce qu'on veut essayer de faire. C'est cette approche qu'on veut essayer d'adopter.
Claude Gibidard, merci. Donc, je rappelle que vous êtes directeur du Programme alimentaire mondial donc en RDC, la République démocratique du Congo. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, et c'est avec le directeur du Programme alimentaire mondial en RDC, Claude Gibidard, que se referme ce magazine Escale, un magazine d'ONU Info préparé et présenté par Jérôme Longuet avec la complicité de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur Internet et aussi sur les médias sociaux, les podcasts, les magazines et les journaux quotidiens d'ONU Info. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.